Et on va accueillir comme il se doit notre invité de ce journal, Michel Favre. Michel, bonjour, bienvenue à Oudo Radio.
Bonjour Joël.
Et bonne année, c'est vrai qu'on ne s'est pas vu pour cette année 2017, même si on échange via Internet, entre autres. Alors voilà, vu l'heure, on va d'entrée attaquer, j'ai dit Constellation et Galaxie, on en redira quelques mots, l'association que vous représentez. Allez, pour présenter cette 29e chronique astro, on va tout de suite rentrer dans l'actu avec la sortie de Thomas Pesquet, voilà, qui a tenu en haleine, notamment via les médias.
Voilà, on a tous pu suivre en direct ou plus tard dans les journaux télévisés la sortie de Thomas Pesquet le vendredi 13, pendant environ 6 heures, pour des interventions de maintenance de l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, mais on le dit en anglais ISS, notamment achever le remplacement d'énormes batteries apportées par le vaisseau cargo japonais HTV-6 arrivé un mois plus tôt, comme je l'avais évoqué en décembre. Au-delà des belles images des astronautes en scaphandre blanc immaculé flottant dans l'espace, parfois sur fond de surface terrestre défilant 400 km en dessous, je souhaitais revenir sur le danger que représentent de telles sorties pour les astronautes. Là-haut, il n'y a bien sûr pas d'air, donc aucune pression. Les températures peuvent varier entre 150 degrés sur des surfaces exposées directement aux rayons du soleil et moins 120 degrés à l'ombre. Donc sans sa combinaison protectrice, l'astronaute pourrait voir son sang geler instantanément dans ses veines et tous ses organes devenir durs et cassants. Ou à l'inverse, le sang se mettre à bouillir et s'évaporer dans l'espace. On n'imagine pas de telles conditions qui sont très différentes de notre expérience au sol, car nous sommes protégés par l'atmosphère qui filtre le rayonnement solaire et, un peu comme une couverture, égalise les températures en nous évitant de tels extrêmes, qui existent par exemple à la surface de Mars, dont l'atmosphère est très tenue. Une température douce en plein été au soleil, mais suivie d'une nuit où il fait moins 70. On voit à quel point nous avons intérêt à prendre soin de cette mince couche qui seule rend notre planète habitable pour nous. Je rappelle qu'elle fait à peine 100 km d'épaisseur, ce qui n'est presque rien par rapport aux 12 750 km de diamètre de la Terre. Et encore, la plus grande partie de l'air se trouve dans les 10 premiers kilomètres. Tout le monde sait bien que l'air se raréfie quand on monte en altitude, par exemple en haute montagne, ou à l'extérieur des avions de ligne où des masques à oxygène sont prévus pour la survie des passagers en cas de dépressurisation. Comme j'aime bien donner des images, en voici une pour illustrer cette échelle. Si on ramenait la Terre à la taille d'une orange, ce qui fait à peu près 7 à 8 cm de diamètre, l'atmosphère aurait à cette échelle une épaisseur d'environ 1,5 mm, soit à peu près l'épaisseur d'une coquille d'œuf. Certaines parties de cette atmosphère nous protègent aussi des rayonnements dangereux pour nous, comme la fameuse couche d'ozone qui empêche la plus grande partie des ultraviolets d'atteindre le sol. Et enfin, l'atmosphère est aussi une barrière infranchissable pour la plupart des petits corps qui entrent en collision avec notre planète, comme les tout petits cailloux qui provoquent les étoiles filantes. Hors de l'atmosphère, comme l'ISS à 400 km d'altitude par exemple, la moindre petite météorite, avec la vitesse énorme à laquelle elle nous percute, des dizaines de milliers de kilomètres à l'heure, a le même effet qu'une balle de fusil et peut vous traverser de part en part. En résumé, l'espace au-dessus de l'atmosphère est très hostile pour les humains et qui s'y aventurent, et pour y survivre, même seulement quelques heures, ils doivent être équipés d'un ensemble de protections contre tous ces dangers.
C'est la combinaison spatiale ?
Exactement. C'est le but de la combinaison spatiale qui ressemble à un simple scaphandre de plongeur à première vue, mais constitue en fait un mini vaisseau spatial pour une personne. Il s'agit d'une enceinte complètement étanche pour assurer la pressurisation de l'intérieur et conserver une atmosphère respirable pour l'astronaute, ce qui veut dire qu'il faut lui apporter de l'oxygène mais aussi éliminer le gaz carbonique qu'il rejette. Pour conserver une température supportable, il doit y avoir un système de climatisation basé sur une circulation d'eau dans tout un système de fines tuyauteries. D'ailleurs, en juillet 2013, suite à une fuite dans ce système, l'astronaute européen Luc Parmitano a vu son casque commencer à se remplir d'eau et a dû rentrer précipitamment dans l'ISS pour éviter de se noyer, ce qui est quand même pas mal, se noyer dans l'espace. La combinaison spatiale doit aussi protéger celui qui la porte, au moins partiellement, des rayonnements dangereux et aussi, bien sûr, des micrométéorites qu'il frappe avec une couche de Kevlar comme celle des gilets pare-balles. Au total, c'est un sandwich comprenant 19 couches, faisant presque 1 cm d'épaisseur, et on comprend toute la complexité de sa conception pour assurer une certaine flexibilité afin que l'astronaute puisse bouger et travailler dans l'espace, sinon une sortie extravéhiculaire n'aurait aucun intérêt. Mais ce n'est pas tout, car il faut penser aussi aux aspects pratiques pour une sortie qui dure plusieurs heures. Un système permet à l'astronaute de boire avec une pipette et même de se nourrir avec des barres énergétiques. À l'inverse, la combinaison possède des systèmes pour recueillir sa transpiration. Sinon, son casque serait rapidement envahi par la buée. Et aussi son urine, car une mission de plusieurs heures ne peut pas être interrompue pour satisfaire un besoin pressant. Et pour ce qui est du confort, j'ai lu que le casque est même équipé d'un doigt artificiel permettant de se gratter le visage en cas de démangeaison. Jusque-là, j'ai parlé des dangers auxquels l'astronaute était exposé dans l'environnement hostile de l'espace, mais il ne faut pas oublier qu'un risque important vient de son propre comportement en apesanteur, d'où les longues heures passées à s'entraîner en piscine pour reconstituer une sensation de flottement analogue. C'est difficile à imaginer pour nous qui vivons en permanence soumis à l'apesanteur, donc à l'attraction que la Terre exerce sur notre corps, mais le moindre geste produit des effets totalement différents lorsqu'on est libéré de ce point d'appui. Par le principe de la mécanique qu'on appelle la loi d'action-réaction ou troisième loi de Newton, car c'est ce savant anglais qui l'a énoncé au XVIIe siècle. En voici un exemple tout simple. Quand vous exercez une poussée sur un objet, par exemple un tiroir pour le fermer, une force exactement égale mais dans le sens inverse s'exerce sur vous. Mais comme vous êtes maintenu au sol par la gravité, un peu comme si vos pieds étaient collés, vos muscles et le contrôle de l'équilibre du corps la compensent. En apesanteur, ça se passe tout autrement. Cette poussée va vous propulser vers l'arrière. Pour éviter que les astronautes soient éjectés dans l'espace au moindre geste, il faut qu'ils soient en permanence fixés à l'ISS. En se cramponnant à des poignets pendant qu'ils se déplacent, en fixant leurs bottes dans des cale-pieds lorsqu'ils travaillent, et par sécurité, ils sont en permanence accrochés à la station par un filin de sécurité, un peu comme des alpinistes de l'espace. Et cet effet de l'apesanteur doit aussi être pris en compte dans toutes leurs actions, notamment avec les outils qu'ils utilisent ou les pièces qu'ils manipulent, comme par exemple des écrous. Sur Terre, si vous lâchez quelque chose, cela tombe au sol, où on peut le ramasser. En apesanteur, cela part très rapidement hors de portée et cela devient un nouveau projectile qui encombre l'espace où l'ISS fonce à environ 28 000 km/h. Après quelques orbites, on imagine les dégâts que pourrait provoquer le choc à grande vitesse, même avec un petit objet. Un des pires exemples de ratage s'est produit le 18 novembre 2008, quand une astronaute américaine travaillant sur l'ISS pour réparer une articulation grippée a voulu nettoyer ses gants pleins de graisse et a laissé s'échapper son sac à outils. Résultat, un équipement de 100 000 dollars perdu dans l'espace, mais surtout des dizaines de projectiles potentiellement dangereux. Au total, il y en avait pour 14 kilos. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 19 000 objets de plus de 10 cm encombrant le voisinage de la Terre et 300 000 si on descend jusqu'à une taille de 1 cm. La plupart proviennent en fait de destruction de satellites et pas de la maladresse des astronautes, heureusement. Donc j'espère qu'avec ces quelques explications, nos auditeurs auront compris à quel point les sorties dans l'espace sont une activité très risquée, nécessitant une forme physique parfaite, une très grande concentration et de longues heures d'entraînement, un peu comme la pratique d'un sport de haut niveau. Malgré les belles images, cela n'a rien d'une balade et ça resterait inaccessible pour la plupart d'entre nous.
Allez, toujours dans l'actu, un feu d'artifice cosmique prévu pour 2022.
Oui, alors c'est une information qui était moins relayée dans les médias que les exploits de Thomas Pesquet, mais je l'ai entendue dans une émission scientifique que j'essaie d'écouter régulièrement. Elle est très intéressante car à part le comportement des corps du système solaire, il est bien rare que les astronomes puissent faire des prédictions à court terme sur l'évolution d'objets célestes. C'est pourtant le cas d'une annonce faite par le professeur Larry Molnar de l'université Calvin dans le Michigan lors de la rencontre de l'Association américaine d'astronomie qui avait lieu début janvier au Texas. Selon lui, on devrait voir apparaître dans les 5 ans une nouvelle étoile dans le ciel, ce qu'on appelle une nova, ça veut tout simplement dire « nouvelle » en latin. Pour faire un rappel historique, les novae ont longtemps été un problème pour les astronomes, car comme la doctrine de l'Église, basée sur les concepts grecs de Ptolémée et Aristote, faisait du ciel supralunaire, c'est-à-dire tout ce qui est plus loin que la Lune, le royaume de Dieu, il devait être parfait et immuable. Rien ne devait changer. Les étoiles étaient toujours les mêmes et à la même position. Donc dès qu'une nouvelle étoile faisait son apparition, une nova, c'était en contradiction de la doctrine et on s'empressait de ne pas le remarquer. Comme par exemple en 1054, quand une supernova, c'est-à-dire une nova très brillante, est apparue le matin du 4 juillet selon les astronomes chinois et arabes. Il était impossible de ne pas la remarquer. Pendant plusieurs jours, elle était visible en plein jour et elle est restée l'objet le plus brillant du ciel, donc plus brillante que Vénus, pendant des mois. Au total, elle a pu être observée à l'œil nu, car il n'y avait à l'époque ni lunettes ni télescopes, pendant près de 2 ans. Aujourd'hui, on peut observer facilement dans un petit télescope le résidu de cette explosion, qui est un immense nuage de gaz appelé la nébuleuse du crabe, qui est située dans le taureau, une constellation qu'on voit justement en ce moment dans le ciel de l'hiver. Un autre exemple historique fameux est la nova dite de Kepler, car elle a été observée par ce célèbre astronome en 1604 et pendant près d'un an. Il a publié une étude détaillée dans un ouvrage entièrement consacré à ce phénomène. À ce jour, c'est la dernière supernova observée directement dans notre galaxie, la Voie lactée. Les novae sont des phénomènes rares et il en existe de différents types, mais pour faire simple, on peut dire qu'il s'agit toujours de l'évolution d'une étoile qui la rend brusquement beaucoup plus lumineuse. Par exemple, les supernovae correspondent souvent à l'explosion d'une étoile très massive à la fin de sa vie.
Alors, comment peut-on prédire l'apparition d'une nova dans les 5 ans, Michel ?
Alors, c'est effectivement assez rare et ça mérite une explication. Le professeur Molnar étudie en fait depuis 2013 une étoile variable située dans la constellation du Cygne, à environ 1800 années-lumière de nous. Il y a différentes raisons qui peuvent rendre une étoile variable, c'est-à-dire dont l'éclat change avec le temps, ce qui est parfois même visible à l'œil nu. Par exemple, la bien connue Mira, dans la constellation de la Baleine, reste visible pendant environ 3 mois avant de disparaître à la vue environ 8 mois avant de réapparaître à nouveau. C'est une variable pulsante, une étoile dont le fonctionnement fait varier le volume et donc la luminosité. Dans le cas qui nous intéresse, alors c'est un peu tiré par les cheveux parce que l'étoile a une immatriculation, elle s'appelle KIC 98-32-227. Il s'agit d'une variable à éclipse, c'est-à-dire un système binaire constitué de deux étoiles en orbite l'une autour de l'autre. Il est facile de comprendre que la luminosité de l'ensemble est plus forte lorsque les deux étoiles sont disjointes, donc avec leurs deux lumières qui nous parviennent complètement, que lorsqu'une des deux passe devant l'autre, masquant ainsi une partie de sa surface lumineuse. D'où la variation périodique de la luminosité. Ce qui est particulier dans le cas de cette étoile, c'est que les deux étoiles sont extrêmement proches l'une de l'autre, car en perdant de l'énergie, le couple s'est progressivement rapproché, au point que la rotation s'effectue en seulement 11 heures actuellement. En étudiant son spectre, c'est-à-dire en décomposant la lumière qu'elle nous envoie, le professeur Molnar est arrivé à la conclusion que c'était une binaire de contact, c'est-à-dire que les étoiles sont si proches que leurs atmosphères sont en contact. On peut se représenter ça un peu comme une quille de bowling. Avec un corps plus arrondi, hein, ce serait presque une boule, qui serait la plus grande étoile, ayant environ 40 fois la taille de notre Soleil, et la tête son petit compagnon. On a déjà observé un autre système de ce genre dans le Scorpion, et cette évolution s'est terminée en 2008 par son explosion en nova, mais à l'époque bien trop faible pour être visible à l'œil nu. Cette fois, ça devrait être beaucoup plus remarquable.
Alors que verra-t-on justement en 2022 ?
Alors, les calculs ne sont pas assez précis pour déterminer une date. D'après le professeur Molnar, ça devrait se produire entre 2021 et 2023. Et il ne faut pas s'attendre à quelque chose de très spectaculaire comme un objet très lumineux embrasant subitement le ciel. Pour le moment, cette étoile est totalement invisible à l'œil nu. Elle a une magnitude maximum d'environ 12, c'est-à-dire qu'elle est à peu près 250 fois moins brillante que les étoiles les plus faibles perceptibles dans un beau ciel noir de montagne loin de toute pollution lumineuse. Mais quand elle explosera, sa luminosité viendra bien plus forte et elle sera facilement visible à l'œil nu à peu près comme l'étoile polaire dans le ciel. On pourrait donc assister à la brusque apparition d'une nouvelle étoile dans le ciel, ce qui est la définition même d'une nova, probablement visible pendant 6 mois on pense. Elle se situe dans la région de l'étoile qui dessine l'aile nord de la constellation du Cygne, une étoile qui s'appelle Delta Cygni ou 18 Cygni si les auditeurs veulent consulter des cartes du ciel. Pour essayer de préciser le moment de cet événement, il faut surveiller en permanence l'évolution de cette binaire et le professeur Molnar a lancé un appel aux astronomes amateurs pour effectuer régulièrement des mesures, donc une coopération pro-am, comme on dit dans le jargon des astronomes, c'est-à-dire entre professionnels et amateurs, ce qui est assez fréquent comme je l'ai déjà évoqué ici.
Allez, toujours dans le cadre de votre 29e chronique Astro, Michel, le sujet, le thème, le côté sombre de l'astro, et là, on sent bien, Star Wars.
Voilà, alors bien entendu, ce titre fait un petit clin d'œil à la saga Star Wars, dont j'ai pu voir le dernier épisode sorti en décembre, et au fameux côté sombre de la Force. L'astronomie possède aussi son côté sombre, avec une partie complètement invisible de l'univers, dont les composantes sont qualifiées de noir ou de sombre, souvent c'est dark en anglais, le terme utilisé, par opposition à tous les objets brillants, les étoiles, les nébuleuses, les galaxies qui sont observées par les astronomes. Et j'ai été frappé de constater à la sortie en kiosque d'une série de volumes intitulée « Voyages dans le cosmos » que les premiers sorties fin décembre et début janvier portaient justement sur la matière noire pour le premier et aussi l'énergie noire dans son dernier chapitre et sur les trous noirs pour le deuxième, ce qui démontre sans doute la curiosité du public pour ces sujets. Mais comme il peut y avoir une certaine confusion entre ces différentes notions, j'ai souhaité les rappeler rapidement pour bien les repréciser pour les auditeurs, en commençant par la plus facile, les trous noirs.
Voilà, justement, rappelez-nous, qu'est-ce qu'un trou noir, Michel ?
Alors au départ, le trou noir est un concept purement théorique, venant de nos modèles mathématiques de la gravitation, cette interaction qui fait que les corps massifs s'attirent les uns les autres, que la pomme, la fameuse pomme de Newton, tombe sur le sol, la Lune orbite autour de la Terre, les planètes autour du Soleil, et les étoiles restent groupées au sein des galaxies. Dès la première théorie de la gravitation universelle, formulée par Isaac Newton en 1684, des astronomes comme le français Pierre-Simon de Laplace imaginent le trou noir. Comme la force produite par la gravité est d'autant plus grande que les masses sont grandes et que la distance entre les objets est petite, un objet très très dense peut exercer une attraction si forte que rien ne peut s'en échapper, même pas la lumière, d'où le nom de trou noir. Mais c'est avec la nouvelle théorie de la gravité incluse dans la relativité générale d'Albert Einstein en 1915 que la notion de trou noir trouve une nouvelle expression mathématique. Mais cela restait un concept théorique et Einstein lui-même doutait qu'un objet aussi bizarre puisse exister réellement dans le cosmos. Aujourd'hui, des observations montrent qu'il se trompait, mais il est toujours très difficile de mettre en évidence la présence d'un trou noir puisqu'il n'émet aucun rayonnement. On ne peut donc le détecter que de manière indirecte, par exemple s'il attire à lui un nuage de gaz ou même une étoile qu'il déchire et absorbe, ce qui semble avoir été observé en mars 2009 par des astronomes de l'Ohio. Une sorte de supernova ratée qui commence comme une grosse explosion quand l'étoile est détruite et se termine comme un pétard mouillé car le trou noir avale rapidement le nuage de gaz en expansion. La meilleure preuve que nous ayons de l'existence des trous noirs est l'observation pendant une quinzaine d'années des étoiles les plus proches du centre de notre galaxie, la Voie lactée. On les a vues orbiter rapidement autour d'un objet central dont on a pu déterminer la masse à partir des lois de Kepler et des équations de Newton, et c'est quelque chose d'énorme, hein, c'est dans les 3 millions de masses solaires. Le problème, c'est que selon nos théories actuelles, aucune étoile ne peut être aussi massive, et surtout qu'on ne voit strictement rien à cet emplacement. Il s'agirait donc d'un trou noir supermassif, comme il semble en exister au cœur de chaque grande galaxie, d'après ce que montrent d'autres observations indirectes.
Allez, y a-t-il un rapport avec la matière noire ?
Alors, pas du tout. Un trou noir est une notion. Un trou noir est une notion liée à la gravité très forte, mais au sein même du trou noir, les conditions sont tellement extrêmes qu'elles échappent à nos théories physiques actuelles. On ne sait rien de ce qu'est l'intérieur d'un trou noir, qu'on pourrait se représenter comme une masse concentrée en un point minuscule. Et en tout cas, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on nomme habituellement matière. La notion de matière noire, hein, dark matter en anglais, donc plutôt matière sombre en réalité, n'est pas un résultat théorique comme le trou noir, mais une hypothèse pour expliquer des observations insolites faites dans les années 1930 et 70. En 1933, l'astronome suisse Fritz Zwicky étudie ce qu'on appelle un amas de galaxies dans la constellation de la chevelure de Bérénice. En effet, la gravité fait aussi que les galaxies proches s'attirent mutuellement et restent regroupées dans des grands ensembles qu'on appelle des amas de galaxies. En étudiant d'une part la masse de ces galaxies qu'il peut déduire de leur luminosité, car elles sont surtout constituées d'étoiles, et d'autre part leur vitesse de déplacement, il constate qu'il y a une incohérence très grande, car tout se passe comme si la masse totale de l'amas était environ 400 fois celle des galaxies qui la composent. Même en tenant compte des marges d'erreur de ces mesures et en faisant différentes hypothèses sur les objets sombres qu'il faudrait ajouter à la masse estimée des étoiles, il n'arrive pas à expliquer un tel écart. Mais ce problème semble ne pas passionner les astronomes de l'époque. Il refait surface dans les années 1970, quand des mesures sont faites sur les vitesses de rotation des grandes galaxies spirales. Si on applique les lois de la gravitation, il y a un lien entre la vitesse de rotation des étoiles et leur distance au centre de la galaxie. Par exemple, dans le système solaire, plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle est rapide sur son orbite. La Terre fonce à environ 30 km par seconde, alors que Mercure, presque trois fois plus près du Soleil, se déplace à 40 km par seconde. Et inversement, la planète géante Jupiter, 5 fois plus éloignée du Soleil que nous, n'avance qu'à 13 km seconde seulement. Or, les mesures faites sur les galaxies sont complètement incohérentes par rapport à ce qu'on attendait. Les étoiles extérieures se déplacent beaucoup plus vite que prévu. Tout se passe comme s'il y avait une masse bien plus grande que ce que nous pouvons voir, cette fameuse matière noire, qui composerait dans les 90% de la masse de la galaxie, la matière visible n'en représentant qu'environ 10%. Ces observations ont été largement confirmées depuis, quand on a pu constater différents effets de cette matière noire à grande échelle, notamment la façon dont elle dévie les rayons lumineux qui nous proviennent de galaxies très lointaines. Aujourd'hui, on parvient même dans certains cas à établir des cartes de répartition de cette matière noire dans les amas de galaxies et constater des effets bizarres, par exemple lors de la collision de deux amas, ce qui fait penser qu'il ne peut pas s'agir de matière ordinaire, qui serait simplement sombre et sous-estimée, mais que ce serait une forme de matière totalement différente de celle que nous connaissons. Il y a différentes hypothèses théoriques sur ce qu'elle pourrait être, notamment des particules que nous ne connaissons pas encore, mais comme une de ses principales propriétés est d'interagir très peu avec la matière ordinaire, il est très difficile de la détecter. Il y a différentes expériences en cours, souvent dans des laboratoires souterrains, pour éliminer d'autres particules connues envoyées par le Soleil, comme par exemple dans le tunnel routier du Fréjus, sous 1700 mètres de montagne. Mais pour le moment, on n'a aucun résultat probant, la matière noire reste donc un mystère.
Et l'énergie sombre ?
Alors, comme pour la matière noire, c'est un concept théorique pour expliquer des observations incohérentes avec nos connaissances. Notre vision de l'évolution de l'univers est actuellement représentée par la théorie du Big Bang, issue notamment des observations de l'astronome Edwin Hubble dans les années 1920, qui ont montré qu'à grande échelle, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. C'est ce qu'on appelle l'expansion de l'univers. Et dans le cadre de la théorie de la relativité d'Einstein, cela s'explique par une dilatation de l'espace. Pour cela représenter simplement, on peut imaginer que les galaxies sont des grains de raisin dans la pâte d'un cake qu'on met dans un four. Plus la pâte gonfle, donc l'espace se dilate, plus les raisins, donc les galaxies, s'éloignent les uns des autres. Alors qu'en fait, ils ne se déplacent pas à l'intérieur de la pâte. C'est la pâte qui gonfle, donc l'espace qui grandit. Mais la gravité qui fait que les galaxies et amas de galaxies s'attirent mutuellement ne peut que freiner cette expansion. À la fin des années 1990, deux équipes indépendantes ont voulu mesurer ce ralentissement. Une aux USA, sous la direction de Saul Perlmutter, avec le Supernova Cosmology Project, et l'autre en Australie avec Brian Schmidt et Adam Rees, de l'équipe IZ Supernovae Search Team. Tous les trois ont reçu le prix Nobel de physique en 2011 pour leurs travaux. Leur méthode était la même. En observant des supernovas dans des galaxies très lointaines, donc dans un très lointain passé puisqu'il a fallu très longtemps à la lumière pour nous parvenir, on pouvait à la fois calculer leur distance et leur vitesse de déplacement par rapport à nous. Et leur résultat est tout à fait surprenant puisqu'au lieu de mesurer un ralentissement de l'expansion de l'univers, ils ont mis en évidence une accélération. La seule explication théorique était d'imaginer une force qui viendrait s'opposer à la gravité pour pousser l'expansion, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme elle nous est totalement inconnue, on l'a nommée énergie sombre ou noire, par analogie avec l'autre mystère que constitue la matière noire. Comme pour cette dernière, malgré différentes hypothèses théoriques, on ne sait absolument pas aujourd'hui de quoi il s'agit exactement. Pour conclure, on peut faire un constat un peu amer, car dans notre univers, il semble bien que, contrairement à Star Wars, qu'on évoquait au début, ce soit le côté obscur qui domine. Avec nos connaissances actuelles, si on examine tout le contenu de notre univers, matière et énergie confondues, puisque depuis la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2, on sait qu'il y a une équivalence entre ces deux notions, on arrive à la répartition suivante. Plus des deux tiers, à peu près 68%, seraient de l'énergie sombre. Un autre quart, 27%, serait de la matière noire, et ce que nous observons directement, toutes les étoiles, les galaxies, les planètes, le gaz, etc., ne représenteraient qu'un petit 5% du contenu de l'univers.
Allez, dernière partie de la chronique, le ciel du mois, et vous allez commencer par la voûte céleste et les constellations.
Alors comme je l'ai dit ces derniers mois, il faut profiter de l'hiver pour observer le ciel, car le soleil se couchant très tôt, on peut admirer la voûte céleste sans avoir à veiller tard comme en été par exemple. Ces jours-ci, le soleil se couche un peu avant 18h et il fait bien noir dès 19h. Fin février, ce sera vers 18h45 pour le coucher et 19h45 pour la nuit noire. Pour les constellations, le plus simple est de consulter les cartes que nous mettons en ligne sur notre site web, mais je vais faire un très bref résumé du ciel de l'hiver que j'avais décrit plus en détail la dernière fois. La constellation principale est Orion, bien reconnaissable à sa silhouette humaine, et toutes les grandes constellations qui l'entourent sont faciles à repérer car leurs étoiles les plus brillantes forment une grande figure circulaire qu'on peut dessiner comme un grand G, se terminant par les trois étoiles les plus brillantes d'Orion, son pied droit Rigel et ses épaules Bellatrix et Bételgeuse formant la barre droite du G. En ce moment, début de nuit noire vers 19h, Orion est au sud-est et Sirius, l'étoile la plus brillante du grand G, est à peine levé. Orion arrive plein sud, donc le plus haut de sa trajectoire dans le ciel, vers 22h. Fin février, ce sera vers 20h, donc dès le début de la nuit noire.
Allez, les planètes.
Alors c'est toujours la brillante Vénus qui domine le ciel de son éclat vers le sud-ouest en début de nuit. Alors une petite anecdote, j'ai eu un appel dimanche soir d'un Parisien qui sortait de la BNF, qui avait trouvé le numéro de constellation et galaxies sur Internet et qui se demandait ce qu'il voyait dans le ciel de si brillant. Et c'était simplement Vénus, mais les pauvres Parisiens, avec la pollution lumineuse de leur ciel, ne sont pas très habitués à voir des objets brillants dans le ciel. La Terre et Vénus sont en train de se rapprocher en raison de leurs orbites et à peu près 1 million de kilomètres par jour, ce qui fait que l'éclat de Vénus augmentera encore en février. Dans le ciel du soir, on peut voir un peu plus haut et un peu plus au sud que Vénus, aussi Mars, qui est beaucoup moins brillant mais reconnaissable à sa couleur orangée. Dans le ciel du matin, on a la situation pratiquement inverse avec une très brillante planète aussi, c'est Jupiter, et qui se lève en ce moment vers minuit et demi et se trouve haut dans le ciel au sud vers 6h. Fin février, elle se lèvera à peu près à 22h et culminera vers 4h du matin. Elle est si brillante qu'elle reste bien visible dans le ciel jusqu'à peu près une demi-heure avant le lever du soleil. Saturne fait aussi son retour dans le ciel du matin à partir de 6h en ce moment, et on la verra mieux fin février où elle se lèvera plutôt vers 4h. Alors, avec ces planètes, il y a souvent des conjonctions de la Lune qui vient les approcher. Mardi et mercredi soir, donc 31 janvier et 1er février, Le fin croissant de Lune passera près de Vénus et de Mars. Il sera sous Vénus le mardi en formant un triangle avec les deux planètes et mercredi à gauche de Mars, donc à l'est, les trois astres étant pratiquement alignés. Le mardi 14, on verra une grosse lune gibbeuse se lever près de Jupiter vers 23 heures. Mais pour ceux qui ne voudraient pas veiller aussi tard, on peut les voir encore à l'aube du mercredi 15. Et le mardi 21, vers 4 heures du matin, à partir de 4 heures du matin, le croissant de lune sera près de Saturne. Il y a deux autres événements concernant la lune en février. Le mardi 5, elle occultera Aldébaran, l'étoile la plus brillante du taureau, à partir de 23h10. Mais l'éclat de la lune gibbeuse rendra cette observation difficile à l'œil nu, je pense. Il faudrait prendre plutôt des jumelles pour voir l'étoile disparaître comme par magie, car derrière la partie sombre du limbe lunaire, avant de réapparaître à peu près 40 minutes plus tard du côté lumineux. Le samedi 11, il y aura une éclipse partielle de lune entre 23h30 et 4h, mais ce sera presque impossible à observer car il s'agit juste d'un passage dans la pénombre de la Terre, donc juste une petite baisse de la luminosité de la pleine lune. On le voit sur des photos, mais à l'œil, c'est pratiquement imperceptible. Alors vous entendrez peut-être parler dans les médias d'une éclipse de soleil le 26 aussi. C'est une éclipse annulaire, c'est-à-dire que la lune, sur son orbite elliptique autour de nous, est assez loin et laisse passer, elle ne couvre pas complètement le soleil, elle laisse passer un petit anneau de lumière tout autour de son ombre. Pour la voir, il faudrait être dans le sud de l'océan Atlantique, donc les seuls qui pourront l'observer, c'est des personnes qui seraient dans le sud du Chili ou de l'Argentine, ou en Afrique, du côté de l'Angola, ou de la République démocratique du Congo. Donc pas pour nous. Alors si c'est un peu tard dans la saison, je présente quand même à tous nos éditeurs mes meilleurs vœux pour l'année 2017. Et comme on le fait souvent entre astronomes, je leur souhaite un bon ciel. Parmi les événements astronomiques marquants de cette nouvelle année, il y aura en avril le retour d'une petite comète périodique qui pourrait être assez brillante pour être distinguable à l'œil nu. Et le 21 août, une éclipse totale de soleil qui traversera les États-Unis.
Très bien, merci Michel. Alors merci pour cette belle chronique. On l'a comme le temps presse avec le magazine. Voilà, on se revoit le mois prochain, le dernier mercredi. Hein, et Constellation et Galaxie pour plus d'infos.
Hein. .org.
Allez, merci beaucoup, oui, constellationgalaxie.org. Allez, merci beaucoup à vous, Michel, Maxime.